Je suis là. Je n'ai pas cessé d'être là. D'une autre manière, certes, mais je suis là. Nul besoin de croire en quoi que ce soit pour sonder le mystère de la présence. C'est l'expérience commune. Combien de fois est-on là sans être présent? On ne sait pas forcément à quoi c'est dû. Concentre-toi, se dit-on. Cela signifie « rassemble ta présence ». Quand on parle d'un élève dissipé, on évoque ce phénomène d'une présence qui se disperse. Il suffit pour cela d'être distrait. La distraction n'a jamais été mon fort. Être Jésus, c'est peut-être cela. Quelqu'un de présent pour de vrai. Il m'est difficile de comparer. Je suis comme les autres, en ceci que je n'ai accès qu'à mon expérience. Ce qu'on appelle mon omniscience me laisse dans une vaste ignorance. Le fait est là. Quelqu'un de présent pour de vrai, cela ne court pas les rues. Mon tiercé gagnant, l'amour, la soif, la mort, enseigne aussi trois manières d'être formidablement présent. Quand on tombe amoureux, on devient présent à un point phénoménal. Par la suite, ce n'est pas l'amour qui se dissipe, c'est la présence. Si vous voulez aimer comme au premier jour, c'est votre présence qu'il faut cultiver. L'assoiffé est dans une telle présence que c'en est gênant. Nul besoin de gloser là-dessus. Mourir, c'est faire acte de présence par excellence. Je n'en reviens pas de ces gens innombrables qui espèrent mourir dans leur sommeil. Leur erreur est d'autant plus profonde que mourir en dormant ne garantit pas l'inadvertance. Et pourquoi veulent-ils celle-ci au moment le plus intéressant de leur existence? Par bonheur, personne ne meurt sans s'en rendre compte, pour ce motif que c'est impossible. Même le plus distrait est soudain rappelé au présent quand il trépasse. Et après, personne ne sait. Moi, je sens que je suis là. D'aucuns affirmeront que c'est une illusion de la conscience. Pourtant, chacun a remarqué l'extrême présence des morts, peu importe la croyance. Quand quelqu'un meurt, c'est fou ce qu'on pense à lui. Pour beaucoup de gens, c'est carrément le seul moment où l'on pense à eux. Ensuite, cela a tendance à s'estomper. Ou pas. Il y a des résurgences extraordinaires. Des individus auxquels on se met à penser 10 ans, 100 ans, 1000 ans après leur décès. Peut-on nier que cela relève de la présence? Ce que l'on voudrait savoir, c'est si cette présence est consciente. Le mort sait-il qu'il est là? Je prétends que oui, mais comme je suis mort, on va dire que je prêche pour ma chapelle. Admettons que je ne sois pas n'importe quel mort. Là encore, je ne sais pas. Je n'ai jamais été un autre mort que moi. Peut-être que tous les morts se sentent aussi présents que moi. Ce qui disparaît quand on meurt, c'est le temps. Étrangement, il faut du temps pour s'en apercevoir. La musique devient l'unique chose qui permet d'en avoir encore une vague notion. Sans son déroulement, le mort ne comprendrait plus rien à ce qui s'écoule. Au bout de plusieurs chants, j'ai été mis dans le sépulcre. Beaucoup de gens sont plus effrayés par leur enterrement que par leur décès. C'est une terreur qui n'a rien d'absurde. Mourir, pourquoi pas? Être enfermé dans un caveau, éventuellement avec d'autres cadavres, quel cauchemar! La crémation, qui rassure certaines personnes, en a peur d'aucun. C'est une crainte qui se défend. Ceux qui crient haut et fort, « Faites de mon corps ce que vous voudrez, je m'en fiche, je serai mort, ça m'est égal. » n'ont sans doute pas beaucoup réfléchi. Ont-ils donc si peu de respect pour la portion de matière qui leur a permis de connaître la vie pendant tant d'années? Je n'ai pas de suggestion quant à cette question. Il faut un rite, voilà tout. Et ça tombe bien, il y en a toujours un. Dans mon cas, il a été vite expédié, ce qui est normal quand il s'agit d'un condamné. Une exécution suivie de funérailles nationales, on n'en a jamais vu. J'ai été enveloppé, avec des gestes très doux, dans un linceul, et entreposé en un renfoncement du caveau, un genre de couchette. Les gens ont pris congé de moi et ont refermé la porte du sépulcre. Alors, j'ai connu ce moment de pur vertige. Être laissé seul avec sa mort. Cela aurait pu très mal se passer. Est-ce parce que je suis Jésus que ça a été si merveilleux? J'espère que non. je voudrais que ce soit ainsi pour le plus de morts possible. Dès que tout a été fini, a commencé ma fête. Mon cœur a explosé de réjouissance. Une symphonie de liesse a retenti en moi. Je suis resté allongé pour explorer cette joie jusqu'à l'instant où je n'en ai plus été capable. Je me suis levé et j'ai dansé. Les musiques les plus grandioses du présent, du passé et du futur ont déferlé en mon sein et j'ai connu l'infini. D'habitude, il faut du temps pour comprendre la beauté d'un morceau et s'en exalter. Là, il m'a été donné de déceler le sublime à la première écoute. Ces musiques n'étaient pas toutes humaines, même si beaucoup l'étaient. Elles provenaient aussi des planètes, des éléments, et des animaux et d'autres origines, pas forcément identifiables. Il y avait également à cette joie un aspect mécanique. Dans nos états d'esprit, les hauts ont tendance à succéder aux bas. Mais j'ai été touché de constater que ce principe de compensation fonctionnait après la mort. Lorsque le caveau n'a plus suffi à contenir mon exultation, je suis sorti. On s'est beaucoup demandé par quelle magie j'y suis arrivé. Cela m'a été si naturel que je ne peux pas répondre. J'ai aimé me retrouver dehors. Le silence qui a suivi la musique a été un délice que j'ai hautement apprécié. Il y avait du vent, et j'ai respiré à plein poumon. Ne me demandez pas comment un mort y parvient. Les amputés gardent la sensation du membre perdu. J'imagine que ceci explique cela. Je n'ai jamais cessé d'éprouver ce qui en valait la peine. J'ai débuté la vie éternelle. L'expression consacrée ne signifie encore rien pour moi. Ce mot d'éternité n'a de sens que pour les mortels. Il existe plusieurs versions de la suite. Voici la mienne. À force de me promener là où j'en avais envie, j'ai rencontré des gens que j'aimais. Quoi de plus naturel, là aussi. Je n'avais aucun désir d'aller dans des lieux qui me déplaisaient, ni de rendre visite à des fâcheux. Comment expliquer qu'on m'ait vu et entendu? Je ne sais pas. Ce n'est pas banal, mais ce n'est pas unique. Il y a eu d'autres cas, dans l'histoire, de morts que l'on a vus et entendus, et plus, si affinité. Il y a eu des cas célèbres et des cas inconnus. S'il fallait recenser toutes les expériences de contact troublant avec des défunts, on replierait des bottins. J'en appelle à chacun afin de témoigner, toute personne qui a perdu un être cher a expérimenté un instant inexplicable. Certains même ont des épiphanies avec des êtres qu'ils n'ont pas connus. En vérité, il n'y a pas de limite à ce qu'on appelle vivre. Cela n'empêche et n'empêchera pas une importante proportion de gens d'affirmer qu'il n'y a rien après la mort. C'est une conviction qui ne me choque pas, si ce n'est par son aspect péremptoire et surtout par l'intelligence supérieure dont se targuent ses tenants. Comment s'en étonner ? Se sentir plus intelligent qu'autrui est toujours le signe d'une déficience. En vérité, je vous le dis, je ne suis pas plus intelligent. Et je ne vois même pas où résiderait l'intérêt de le prétendre. Je n'ai pas plus de fantasmes d'égalité que de fantasmes de supériorité. Les deux causes me paraissent vaines. La qualité d'un être ne se mesure pas. Pas plus qu'il n'y a de voix passive ou active à ce qu'on a cru être mon miracle dernier. Est-ce que j'ai ressuscité ou est-ce que je suis ressuscité? Si j'analyse ce qui m'a traversé, je dirais que je suis ressuscité. Je me suis laissé faire. Le troisième jour, je n'ai rien senti de tel. Quand je suis passé de l'état vivant à l'état mort, j'ai connu un changement significatif de perception, particulièrement en ce qui concerne la durée. Dès mon trépas, mon sort a-t-il différé du lot commun? Je n'ai pas les moyens de le savoir, mais j'ai l'intuition que je ne suis pas le seul à l'avoir expérimenté ainsi. Un des plus grands écrivains dira que le sentiment amoureux disparaît à la mort, pour se transformer en amour universel. J'ai voulu le vérifier en allant revoir Madeleine. Avant même qu'elle s'aperçoive de ma présence, j'ai été bouleversé de la retrouver. Le souvenir de mon corps l'a prise dans mes bras, elle m'a serré contre elle avec frénésie. Rien n'altérait notre ferveur. Le même écrivain aborde ce sujet dans une nouvelle intitulée « La fin de la jalousie ». Le narrateur, maladivement jaloux, guérit de cette maladie au moment de sa mort et cesse simultanément d'être amoureux. Cet écrivain a une conception très spéciale de la jalousie. À ses yeux, elle constitue la quasi-totalité de l'amour. Comme j'ai été aussi un homme ordinaire, je me suis souvenu que, quand j'étais vivant, l'idée de Madeleine avec un autre m'était désagréable. À présent, il faut reconnaître que cette perspective m'indiffère. Donc l'écrivain a raison. La jalousie ne laisse pas de traces après la mort. Mais il a tort, du moins en ce qui me concerne. La jalousie et l'état amoureux ne se recouvrent pas. Si je me suis tant manifesté auprès de ceux que j'aime, c'était davantage pour honorer le message de mon père que par besoin profond. Ce doit être une autre différence notoire avec l'état de vivant. L'amour n'engendre plus une telle nécessité de contact, surtout si la séparation ne s'est pas faite dans le malentendu ou la crise. Je ne doute pas de l'amour de Madeleine. Je sais qu'elle ne doute pas du mien. Pourquoi multiplier les rencontres? Ce qui est vrai pour elle l'est a fortiori pour les autres. Il ne s'agit pas de froideur, c'est de la confiance. J'ai été ému, bien sûr, de retrouver certains de mes disciples et amis. Leur bonheur de me voir en si bonne forme a rejailli sur moi. Quoi de plus naturel? Pourtant, en vivant ces moments de fête, j'avais hâte qu'ils se terminent. Cet excès de tension m'était un peu pénible. J'avais envie de paix. Je sentais que mes amis étaient très en demande et j'essayais d'y répondre. C'était pour eux et non pour moi. Si vous reprochez à votre cher disparu de ne pas se manifester, n'oubliez pas que c'est vous qui avez besoin de lui, et non l'inverse. Quand on aime vraiment quelqu'un, exige-t-on qu'il se sacrifie pour nous? La plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à l'aimé n'est-elle pas de lui permettre de se livrer à l'égoïste tranquillité? Cela demande moins d'efforts qu'on ne le croit. Juste de la confiance. En vérité, si votre défunt bien-aimé se tait, réjouissez-vous. C'est qu'il est mort de la meilleure manière. C'est qu'il vit bien sa mort. N'en déduisez pas qu'il ne vous aime pas. Il vous aime de la plus merveilleuse façon, en ne se forçant pas à faire pour vous une contorsion déplaisante. Il est doux d'être mort. Revenir vers vous est fastidieux. Imaginez. L'hiver, vous êtes couché sous la couette dans le délice du repos et de la chaleur. Même si vous chérissez vos amis, avez-vous envie de sortir dans le froid pour le leur dire? Et si vous êtes l'ami, voulez-vous réellement contraindre celui qui vous manque à affronter l'inconfort des frimas pour vous rassurer? Si vous aimez vos morts, faites-leur confiance au point d'aimer leur silence.